Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Interview Rafale. Le concept est simple, retrouver dans chaque épisode les pépites d'une interview avec un ou plusieurs invités qui se sont prêtés à une série de questions rafales. Découvrez leurs projets, leurs habitudes quotidiennes, leurs recommandations en termes de séries, musique ou chaînes YouTube, et plus généralement, leurs conseils basés sur leurs expériences personnelles. Aujourd'hui, nous accueillons Michael Ferrari. Créateur du blog Esprit Riche, auteur et youtubeur, il est parvenu à développer sa liberté financière en partant de zéro. Aujourd'hui, il loue pleinement son temps et continue de partager ses conseils. Sans plus tarder, découvrons les meilleurs extraits de son interview. C'est parti. Est-ce
Okay.
que tu pourrais te présenter ainsi que ton activité pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît?
Ouais, donc je suis Michael Ferrari. Alors, me présenter, c'est toujours un peu difficile parce que j'ai fait plusieurs choses comme beaucoup d'entrepreneurs. Je suis à la base investisseur dans l'immobilier. Donc, j'investis dans des immeubles de rapport essentiellement que je rénove, que je conserve. Et j'ai une activité en location courte durée. J'ai une activité marchand de biens. Et j'ai mon activité de formation en ligne où j'accompagne et je forme les gens qui veulent apprendre à investir, apprendre à bien gérer leur argent et puis à se créer une vie voilà, où la liberté est au centre. Et puis voilà, en ce moment, je travaille sur un projet de foncière en France. On déploie un modèle de foncière à participation collective. C'est un truc assez unique, hybride. Et l'idée, c'est d'en implanter une quinzaine en France cette année pour que voilà, il y ait plein d'investisseurs qui puissent rejoindre une foncière, participer à une foncière près de chez eux.
Oui, j'ai vu ça sur YouTube, j'ai suivi ta vidéo. C'est vachement intéressant et assez innovateur. Ouais.
Ouais, c'est assez unique. Ouais.
Ok. Je te propose qu'on en discute après.
OK.
Donc, comment est-ce que tu es arrivé à développer toutes ces activités? Est-ce que ça s'est fait progressivement? T'as peut-être fait des études sur le sujet ou alors pas du tout? Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours?
Ouais, bon, alors ça m'a pris une dizaine d'années au final hein, de développer tout ça. C'est pas du tout ça que j'ai étudié. Au départ, moi j'étais dans le conseil en management. Donc je travaillais dans des grandes banques à Paris et je les conseillais sur leur manière de s'organiser, sur l'évolution de leurs outils internes et ce genre de processus. Et en fait, ce qui m'a poussé à évoluer vers tout ça, c'est tout simplement l'envie d'avoir une activité qui a du sens. Et j'ai en fait vu assez vite que ce qui avait du sens pour moi, c'était de pouvoir aider des personnes individuelles. Donc, fournir du conseil à une entreprise, c'est bien, c'est sympa, il y a plein d'aspects qui sont cool. Je fais ça pendant 8 ans, donc c'est un super métier. Mais ça a beaucoup plus de sens pour moi de changer la vie d'une personne. Et l'un des aspects sur lesquels il est extrêmement difficile pour la plupart des gens d'évoluer, c'est l'argent. Et donc, j'ai voulu former les gens à cette question-là, puisque je me suis demandé, moi, très tôt, comme je viens d'une famille qui était surendettée, j'ai aussi fait attention à mon argent et je me suis posé beaucoup de questions sur comment on gère son argent, comment on investit, etc. Ce qui fait que j'ai commencé à investir quand j'étais consultant et puis très vite, je me suis dit, mais en fait, ce que j'aime bien faire, c'est transmettre. Donc, il faut que j'accumule de l'expérience, je continue à investir, j'investis et puis je vais développer toute une partie de conseils, d'accompagnement, de formation autour de ces questions-là, parce qu'il y a une grosse demande, et puis il y a encore tout, même encore aujourd'hui, tout reste à faire, puisque en fait, les investisseurs en France, c'est un infime pourcentage de la population.
Donc ça s'est fait progressivement et à partir de quel moment tu as pu en vivre pleinement?
Ben, j'ai pu en vivre pleinement quand je l'ai décidé, un peu paradoxalement, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez prudent. Donc, si tu veux, pendant des années, je faisais tout en parallèle. Ça faisait des grosses journées de travail, mais j'investissais, je réalisais les missions de conseil chez mes clients et je développais la partie Internet. Et si tu veux, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est attendre que la partie Internet rapporte enfin, assez pour pouvoir se substituer à la partie conseil que je faisais de manière traditionnelle. Donc ça, ça m'a pris... bon, le blog, je l'ai créé au départ il y a, en 2007, donc il y a longtemps. Ce n'était pas du tout un projet business à la base. Ça l'est devenu, mais à partir du moment où j'ai commencé à me dire, tiens, il faut que j'enclenche quelque chose, ouais, j'ai mis 4 ans avant de pouvoir basculer dessus et en vivre, quoi.
Et parce que tu as aussi les revenus liés à tes investissements immobiliers. Ça représente, oui, combien en pourcentage de ces différentes activités, peut-être, par rapport au chiffre d'affaires?
Alors, en pourcentage, alors, je sais pas le dire. Les loyers aujourd'hui, j'ai environ 25 000 euros de loyer mensuel. J'ai encore pas mal d'endettement en face. Mais il reste 6 000 euros de loyer mensuel à peu près. Donc, je pourrais ne vivre que de ça. Mais voilà, pour l'instant, j'utilise pas. En fait, pour moi, toute la partie immobilier, investissement, c'est de la capitalisation de long terme, en fait. C'est pas comme ça. Moi, je ne l'utilise pas pour vivre au quotidien. Ce n'était pas mon projet. Moi, je préfère avoir une activité commerciale pour vivre, quoi.
Par activité commerciale, tu entends la partie business en ligne, formation et accompagnement peut-être de particuliers?
Ouais, en fait, c'est tout ce qui concerne, tout ce qui n'est pas de l'investissement immobilier classique. Donc, ça veut dire la location courte durée, ça veut dire le marchand de biens, et ça veut dire effectivement la formation en ligne. Tous ces aspects-là qui sont complémentaires.
D'accord. Et là, actuellement, comment s'organise ton quotidien?
Alors moi, je délègue beaucoup, beaucoup les choses. Hein, donc ça, pareil, ça fait partie de ma philosophie. Je souhaite préserver ma qualité de vie et le temps au maximum, ce qui fait que je délègue beaucoup, beaucoup d'aspects de tous les processus. Et donc moi, mon quotidien, c'est... de la gestion sur les sujets que les personnes que j'élègue ne peuvent pas faire. Donc, gérer les trucs impératifs. C'est beaucoup d'analyse de nouveaux projets prise de décision et un peu de création de contenu, voilà, des nouveaux contenus de formation ou autre. Voilà, ça serait parti comme ça. En ce moment, c'est beaucoup sur le projet de foncière parce que ça demande pas mal de temps et d'énergie au début. Donc, c'est beaucoup ça. Donc, voilà, c'est un petit peu difficile à expliquer puisque ça change d'un jour à l'autre. J'ai pas de journées qui peuvent se ressembler, en fait, hein, parce que je vais traiter dans une journée un sujet avec un locataire, analyser un investissement, le développement de la foncière, et puis gérer mon portefeuille bourse, enfin, tout ça peut avoir lieu dans une journée, quoi. Donc,
et par rapport à ce projet de foncière, où est-ce que vous en êtes? Et peut-être avant ça, présenter un peu le concept.
Ouais, alors le concept, c'est que on a aujourd'hui beaucoup de personnes qui veulent investir dans l'immobilier, qui ne peuvent pas le faire seuls pour plein de raisons. Il y a des questions de taux d'endettement, il y a des questions de temps, il y a des questions de juste d'énergie, de volonté, ça leur paraît compliqué, etc. Et en fait, il y a 3 ans, on a créé une foncière qui était un modèle un peu expérimental dans laquelle on s'est dit, tiens, si on se réunissait, on met de l'argent, donc on a du cash, et on achète, on fait de l'investissement, mais de l'investissement qui en plus a une vertu écologique, qui a du sens, et on voit ce que ça donne. Et on a vu que ça marche extrêmement bien, puisque du coup on est associé, mais on est impliqué, donc c'est de la gestion collective, c'est pas une foncière au sens un peu traditionnel du terme. Je suis investi moi dans une foncière un peu traditionnelle, j'ai 150 000 euros dans des bureaux qui sont à Rennes, voilà, c'est une foncière, on est 30 associés. Je ne connais pas mes autres associés, j'ai rien à faire, on ne me demande rien de faire, c'est entièrement passif. Voilà, ça c'est le fonctionnement classique d'une foncière. Ce qu'on a voulu faire, nous, c'est une foncière à gestion collective, c'est-à-dire où un coup, on va demander aux associés de venir donner un coup de main sur le terrain, ou alors on va leur demander, on a, on a un dossier sur lequel on a besoin de quelqu'un d'assez costaud sur certains aspects administratifs, on va demander de l'aide. Voilà. Donc, les associés participent. Et donc, on a vu, et donc on a pris conscience et puis développé l'aspect écologique. Donc, notamment, on a 75% de nos bâtiments qui sont en DPE A ou B, alors que c'est de la rénovation. Parce que voilà, on a hacké le fonctionnement du logiciel et puis comprendre ce qu'il faut mettre dans l'algorithme pour que ça marche. On a obtenu un label RSE niveau engagé. Et puis on va faire un chantier bas carbone. Donc en France, il y a eu 5 projets qui ont été faits bas carbone. Donc c'est personne ne fait ça en fait. Donc voilà, l'idée c'est de dire bah, puisqu'on a cette possibilité de faire des projets que seul on ne peut pas faire, parce que moi seul sur mes propres investissements je vais pas m'amuser à faire du DPE A ou B, c'est trop compliqué, je vais pas faire un bâtiment bas carbone, c'est trop compliqué, je sais pas faire. Par contre quand on est 10 associés, qu'on peut se réunir et qu'on peut se répartir la tâche, etc. Ben là c'est plus simple, voilà. Et donc l'idée c'est de, une fois on a cette expérience là, donc on a acheté une vingtaine d'immeubles en 2 ans. On a un patrimoine qui vaut à peu près 6 millions d'euros. Et l'idée, on s'est dit, bah, ça marche bien et on voudrait le déployer en France. Donc, on veut le déployer dans d'autres villes pour permettre à des gens qui sont à Metz, à Mulhouse ou à Bordeaux, bah, de se dire, bah, moi, je voudrais participer à la foncière qui est près de chez moi et participer à ce projet qui allie en fait plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire faire du rentable, faire de l'écologique et puis avoir du sens pour la société, puisqu'on améliore des bâtiments à un niveau que personne ne fait. Voilà.
Je trouve ça génial. Et l'étape actuelle du projet, c'est essayer de recruter les différentes personnes dans plusieurs localisations de France.
C'est ça. On a déjà identifié une quinzaine de porteurs de projets. Voilà, donc notre objectif c'était entre 15 et 20, donc on y est, on les a identifiés et on va commencer le cycle avec eux de leur montrer plus en détail tout ce qu'on a fait et ce qu'on attend d'eux. Et puis après, la prochaine étape, ça va être d'aller chercher les associés qui veulent rejoindre le projet autour de ce directeur-là. Sachant qu'on a un gros avantage, c'est qu'en fait, on a 30 à 40 places par ville. Donc, c'est très peu. Donc, le directeur va choisir les associés avec lesquels il veut travailler parce que si tu as de l'argent, tu peux venir. C'est pas comme ça que ça marche. Le directeur va choisir les personnes avec lesquelles il a envie de collaborer parce que c'est lui qui va les gérer, ces gens-là. Et pendant toute la durée du projet, c'est un projet qui s'écoule sur 8 à 10 ans. Hein, donc, il faut que les choses soient solides. Et donc, on va choisir les gens. Comme on a choisi ces directeurs-là, on les choisit. Hein, on a des candidatures qu'on a mis de côté, soit pour des questions de compétences, soit pour des questions de valeurs. Et donc, voilà, choisir les associés, c'est la prochaine grande étape. Et l'idée, c'est de commencer d'être opérationnel au mois de septembre. On va faire les premiers investissements. L'avantage, c'est qu'on est en cash. Donc, ça peut aller très vite pour acheter un bien. Comme il n'y a pas d'endettement, bah, tous les loyers, c'est quasiment que du bénéfice. Il n'y a pas de charge importante, il n'y a pas de banque à rembourser. Et donc, de faire comme ça, dans chaque ville, un ou deux gros projets. Voilà, c'est avoir une enveloppe entre 1 à 2 millions, quoi, selon le nombre d'associés. Faire comme ça, un ou deux projets. Il y aura certainement une question de refinancement au bout de 1 ou 2 ans, d'aller voir une banque et de dire on voudrait faire refinancer des biens qu'on a déjà pour reprendre du levier bancaire et puis refaire encore un projet. Ça va sûrement se faire comme ça. Et je dis sûrement parce qu'en fait, on ne sait pas. Tout est encore, il y a plein d'aspects qui sont encore très expérimentaux et on est très ouvert, aux bonnes idées. Donc, ce n'est pas des choses qui sont écrites noir sur blanc et figées sur 10 ans. On a le début de trajectoire, nous on a toute la méthodologie de rénovation. Moi je vais m'occuper de l'animation du réseau, de la formation, parce que l'idée c'est de faire circuler la formation entre les foncières, entre les personnes, parce que c'est les directeurs qu'on a identifiés, c'est que des gens qui ont fait des projets, qui ont fait beaucoup d'immobilier. Donc, c'est des gens qui ont des expertises sur plein de domaines. C'est passionnant, quoi. Et de développer aussi, du coup, un réseau de directeurs, mais un réseau d'associés. Donc, moi, la vision qu'on a, c'est de dire, bah, y a un associé qui est à Lille, bah, il pourra entrer en relation avec un associé qui est à Marseille, parce que, je ne sais pas, à un moment donné, ils ont besoin d'échanger sur un sujet, où ça devient un réseau dans le réseau, tu vois, c'est un réseau, un nouveau réseau se crée en France, et tu pourras avoir ton collègue associé, parce que tu fais partie de la foncière, et que voilà, y a tout un partage de valeurs. Voilà, ça c'est la vision de ce réseau-là.
Et le type de bien cible, c'est plus des appartements, des maisons résidentielles, ou alors même vous partez sur, je sais pas, des résidences secondaires pour faire de la location courte durée.
En fait, tout est possible. Tout est possible. Nous, on va pas, c'est pareil hein, sur cet aspect-là, on ne va pas imposer quoi que ce soit. On veut que ce soit le directeur local qui fasse ses choix. Qui fasse ses choix sur ce qu'il a l'habitude de faire, sur les opportunités qu'il trouve. Là-dessus, il n'y a pas de contraintes particulières. On va juste nous s'assurer que ce soit dans des zones qui vont prendre un peu de valeur, parce que c'est quand même un des aspects importants. Mais c'est tout. À part ça, le directeur est libre de faire ce qu'il veut. Nous, on va surtout lui donner des repères sur la partie rénovation. Et comment on veut que ce soit rénové, les matériaux utilisés, et voilà, tous ces détails-là. Parce que ça fait une grosse différence sur la qualité du bien. Et parce que l'idée, c'est de pouvoir après revendre facilement. Aujourd'hui, si on rénove un immeuble, qu'on est en DPEB, bon, on sait que même dans 10 ans, ça se revendra facilement. Et qu'on pourra intéresser. Même des institutionnels qui veulent reprendre des parcs ou qui veulent, voilà, parce que ça aura été fait, parce qu'on sera labellisé et parce qu'on va pouvoir engager aussi des actions à l'échelle un peu nationale. Par exemple, la première foncière, on a planté 600 arbres avec une partie des loyers qui est reversée à une asso pour ça. Mais on se dit, si on fait ça à l'échelle nationale avec 20 foncières, bah, peut-être qu'on pourra planter 6000 arbres ou 60 000 arbres, je ne sais pas. Et donc, ça va faire partie des retombées un peu indirectes du projet qu'on a envie aussi de mettre en avant. Quoi.
On a parlé de ce projet de foncière collective. Est-ce que tu aimerais rajouter un petit commentaire dessus ou tu penses qu'on a fait le tour?
Non, je pense qu'on a fait le tour.
Est-ce que tu veux aussi greffer, peut-être parler d'autres projets, notamment peut-être ton livre ou alors parler de tes formations en ligne?
Oui, enfin, qu'est-ce que tu veux que j'en dise, du coup, sous quel angle?
Alors, je vais peut-être enchaîner sur les questions. Justement, le livre, je l'ai résumé.
Oui.
J'ai trouvé assez intéressant parce qu'il est très généraliste et je pense qu'il permet de mettre le pied dans l'investissement. Combien de temps ça t'a pris de faire ce travail et comment t'es venu l'idée
Sur le livre, je voulais avoir une porte d'entrée, oui, une synthèse un petit peu de ma vision. Et ça m'a pris plus de 2 ans d'écrire le livre. C'est toujours très, très compliqué d'écrire un livre pour moi. C'est mon troisième ou mon quatrième livre. Et à chaque fois, c'est un sacerdoce, quoi. Voilà, donc, je suis content qu'il soit sorti. L'idée, c'est de pouvoir expliquer, résumer ce qu'est ce parcours. Et puis la vision, parce que en fait, en France, quand tu parles d'investir, c'est toujours très abstrait. Les gens, et je voulais en fait, au travers du livre, que les gens se demandent pourquoi ils investissent et dans quoi ils investissent, que ça réponde à un objectif. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai tout construit dès le départ, en me disant l'objectif, il ne faut pas l'oublier, et donc il y a des investissements qui ne m'intéressent pas. Il y a même des carrières ou des éléments dans lesquels on s'investissent personnellement beaucoup de personnes qui, moi, ne m'intéressent pas parce que ça ne correspond pas du tout à ce que je cherche.
Et est-ce que ce livre et la petite audience qu'il génère, ça a eu des retombées sur tes autres activités?
Oui, alors bien sûr, ça permet à un nouveau public de me découvrir. Ça permet surtout, je pense, aux gens qui me suivaient ou qui me connaissent comme tu suis voilà, des gens sur Internet, de se dire, bah, tiens, ça va me permettre de savoir un peu ce qu'il a à dire sur le sujet, sur l'argent, etc. Et donc, ça leur a permis d'approfondir un peu plus les choses et de leur donner des idées. Ouais, j'ai eu pas mal de retours positifs de gens que ça motive tout simplement hein, de cette vision-là, parce que ça te permet d'établir un plan. Donc, tu sais que tu as un point de départ, c'est aujourd'hui, et ça va te permettre d'imaginer les 5 prochaines années, d'avoir un plan et d'imaginer des étapes. Ce qui est la chose la plus importante pour passer à l'action, c'est-à-dire que tu as une vision. Sans vision, c'est compliqué d'agir et d'être régulier et de relever les défis qu'il va y avoir inévitablement, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses à résoudre. Donc ouais, ça permet à plein de gens de découvrir un peu plus mon travail. Puis le livre, ça a toujours cette vertu d'être quelque chose de matériel dans un monde où tout est dématérialisé. Donc ça c'est bien aussi.
Et pour les gens qui veulent passer à l'action, après ils peuvent se rentrer dans le concret avec tes formations en ligne. Qu'est-ce voilà. Que tu proposes comme accompagnement?
Après, j'ai plein, en fait, comme de mon métier de consultant dont je t'ai parlé tout à l'heure, que je faisais à la base, j'avais commencé à cette époque-là à faire de la formation d'entreprise. Et donc, c'est un truc que j'aime vraiment faire, le fait de prendre des compétences et de les transformer en contenu pédagogique et expliquer comment ça marche. Et donc, je développe des contenus comme ça de formation sur tous les aspects qui sont nécessaires de faire quand on veut investir, quand on veut organiser ses finances. Donc, ça va de l'immobilier à la partie gestion de son argent. Ma formation un peu la plus connue, c'est ma formation qui s'appelle « Je réussis mon investissement locatif » où j'explique de A à Z comment faire un projet immobilier avec tous les aspects, financement, fiscalité, travaux, etc., etc. Après, j'ai plein d'autres contenus complémentaires par exemple, une formation qui plaît beaucoup, c'est une formation où j'explique comment se débancariser, comment c'est un petit peu d'actualité. Donc, comment tu peux, dans quoi tu peux investir, dans quoi tu peux mettre ton argent pour qu'il soit peut-être un peu plus en sécurité.
Ok. Et est-ce que on sent vraiment la passion pour l'investissement immobilier? Est-ce que tu es aussi passionné sur l'investissement boursier ou alors les crypto-monnaies? Alors, c'est plus une partie investissement passif.
Alors, la partie bourse, non, c'est plus passif pour moi. Je trouve ça moins intéressant. J'apprécie beaucoup plus le côté, tu vois, long terme, parce qu'on me demande souvent ça, moi, long terme. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir un portefeuille boursier, parce qu'en termes de gestion, c'est génial. Par contre, au quotidien, ça procure pas beaucoup d'émotions, un portefeuille boursier. Tu vois, c'est des chiffres sur un écran. Donc bon, t'as ton ETF, t'as tes quelques actions à dividendes, mais voilà, moi, c'est pas un truc qui me met beaucoup. Donc c'est l'investissement un peu rationnel, j'allais dire. Et puis la crypto, ça c'est génial. Le côté liberté de la crypto, moi, me parle beaucoup. Et ça va ne faire que prendre de l'importance, la crypto, dans l'avenir. Parce que quand tu as une réserve de valeur dont tu ne peux pas manipuler la valeur, c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a ça. Hein. C'est la première fois dans l'histoire. Hein. Donc, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est quelque chose de nouveau.
C'est aussi la décentralisation, désintermédiation. Ça permet de sortir peut-être un peu du système, comme tu disais tout à l'heure.
Ouais, ça fait partie des solutions, hein, de toute façon. Hein, le Bitcoin, notamment. Hein. Et oui, c'est clair que. Pas d'intermédiaire, et puis tu as ta valeur, tu détiens ta valeur, et il n'y a personne qui va te demander pourquoi tu veux retirer 1500 euros pour aller faire quoi, ou je ne sais pas. C'est ce qui est le cas aujourd'hui quand tu veux retirer dans une agence bancaire.
Et par rapport à l'immobilier tokenisé, est-ce que tu as déjà entendu parler de Realty?
Ouais, bien sûr, j'en ai entendu parler. C'est un très bon projet. C'est le seul projet d'ailleurs qui marche comme ça en immobilier tokenisé. Il y en a eu plein d'autres hein, que j'ai regardé en Europe aussi. Mais en fait, ça, c'est le seul qui fonctionne vraiment et qui est très intéressant comme manière de fonctionner. C'est une très bonne manière. Enfin, je pense que d'ailleurs aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait par exemple investir dans l'immobilier à l'étranger, il faut 100 000 fois mieux plus se passer par Realty qu'aller s'emmerder à aller acheter une maison en direct aux États-Unis ou je sais pas quoi. C'est de la folie furieuse. Vaut mieux acheter ses tokens sur Realty, c'est 10 000 fois plus commode. Il y a beaucoup moins de risques. C'est sans commune mesure.
Okay. On entend aussi beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu utilises dans ton quotidien, notamment pour le travail de création?
Oui, alors pas au quotidien, mais je l'utilise de temps en temps pour le travail de création. Je trouve que c'est vraiment bien pour générer des images, par exemple. Ça, je trouve que c'est vraiment bien. Ça peut aider à générer des idées aussi. C'est intéressant pour ça. Mais après, tu vois, par exemple, dans l'immobilier, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans l'immobilier. C'est pas très créatif l'immobilier, il hein, faut être honnête. À part si tu as un logement un peu à thème et que tu veux rédiger un guide d'accueil du logement à thème qui soit un peu sympa et bien écrit, dans ce cas-là, oui, tu peux utiliser l'IA. Ça va être une fois quand tu crées ton logement, c'est tout. Voilà, il y a assez peu de cas d'usage concrets dans l'immobilier, en tout cas sur la partie créative. Mais oui, je l'utilise de temps en temps, effectivement, pour générer des images, c'est super bien. Puis pour s'amuser, je montre ça surtout à mes enfants aussi pour leur montrer comment ça marche, qui se préparent et qui intègrent ça dans leur fonctionnement, là, le fait que l'IA est un assistant intéressant, quoi.
Peut-être aussi une question par rapport au projet à venir ou à la vision. Où est-ce que tu te projettes, où est-ce que tu te vois dans quelques années? Qu'est-ce que tu aimerais faire au quotidien en termes d'activité?
Écoute, bah en fait, moi, je suis dans un. Ma vision, ça va être de développer. Je suis sur la trajectoire que j'ai envie d'avoir, en fait. Hein. Donc, ça va être de continuer cette trajectoire. C'est-à-dire, on peut imaginer que ce réseau de foncières prenne beaucoup d'ampleur et qu'on soit passé de 20 à 100 villes en France. Ça pourrait être assez sympa et c'est de nature à m'occuper quasiment en exclusivité hein, si ça prend une telle ampleur. Donc ça serait voilà, ça peut être un élément de la vision de développer cette partie-là. Ça va aussi être probablement de continuer à développer mes propres projets d'investissement parce que c'est un truc que j'aime bien faire. Et puis voilà, en fait, c'est juste continuer à faire ce que je fais que j'aime déjà. Alors ça sera peut-être pas exactement 100% identique, mais dans l'idée, oui, continuer à faire ce que je fais, c'est l'activité qui me plaît aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est la voie que j'ai. C'est toujours cette idée de se dire, on se crée une vie dont tu n'as pas vraiment besoin de prendre de vacances, parce que bon, ça te convient, quoi. Voilà, c'est ça le gros avantage quand tu décides de ce que tu fais, quand tu le fais, quand tu as choisi ce que tu fais. Et donc, bon, j'ai cette chance-là. Donc, pour moi, pour que ça dure, quoi. Là, je suis très content avec ça. Là, il y a une phase, évidemment, avec les enfants. Donc, tant qu'ils sont petits, voilà, on est évidemment plus à s'occuper d'eux. Peut-être que dans une dizaine d'années, ça sera différent. Ils seront beaucoup plus grands, ils seront plus autonomes. Donc, ça m'ouvrira. Peut-être que j'aurai d'autres perspectives à ce moment-là, certainement. Mais voilà, pour l'instant, là, pour les 5-10 années à venir, ce que je fais aujourd'hui me convient parfaitement, quoi.
Je me doutais de la réponse. On sent que tu es aligné sur ce que tu fais. Ça se ressent, je trouve, dans le contenu. On a abordé à peu près tous les sujets. Est-ce que tu voulais peut-être aussi quelque chose que j'aurais oublié, quelque chose que tu aimerais mentionner avant de passer aux questions rafales? Sinon, je te propose de.
Ouais, enfin, je pense que je voudrais peut-être mentionner, rappeler que vraiment, C'est hyper important que chacun, voilà, reprenne sa souveraineté individuelle, hein, sur son temps, sur son argent. C'est la base de tout, en fait, hein. C'est la base de tout, sans quoi vous serez jamais libre. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça. Il y a aujourd'hui trop, d'ailleurs, même de possibilités de faire ça, de par les activités que tu peux faire, les endroits où tu peux vivre. Enfin, voilà, c'est très, très. Il y a beaucoup aujourd'hui de choses possibles. Mais ce n'est pas un sujet à négliger. J'ai vu là récemment, soit je rappelle ça, parce que j'ai vu récemment qu'il y avait tu sais, tous les influenceurs un peu de télé-réalité là, qui faisaient des trucs en mode je vais vous apprendre la liberté financière et tout ça. Donc je me suis dit que j'avais un gros problème parce que j'utilise les mêmes mots que ces gens-là. Et qu'en fait, j'imagine que pour quelqu'un, un public extérieur qui n'a jamais rien fait sur ce sujet-là, bah, ça peut semer la confusion, quoi. Se dire, attends, la liberté financière, c'est quoi? C'est les arnaques sur Telegram avec les mecs de télé-réalité, ou c'est faire de l'immobilier? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et c'est pas évident, je pense, pour quelqu'un qui débute de comprendre ce que c'est, et de se dire, bah, c'est possible pour moi aussi. C'est possible de le faire en faisant des vrais trucs dont je peux être fier, en créant des produits, en gérant des projets, enfin, peu importe, mais c'est aussi cet aspect-là des choses, c'est aussi du concret. Voilà, je voulais rappeler ça, ce message-là, c'est important parce que on trouve de tout et n'importe quoi. Et c'est moi, j'ai eu de la chance quand j'ai démarré qu'il n'y avait pas rien sur Internet, donc je n'ai pas été influencé, je n'ai pas eu à faire ce tri. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui démarre, il faut faire un gros tri et voilà, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain parce qu'il y a vraiment plein de possibilités d'apprendre un nouveau métier, d'apprendre voilà, à investir intelligemment et à vivre une vie plus riche, quoi.
Et pour un jeune qui rentre dans la vie active et qui aimerait débuter dans cette quête vers la liberté financière, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme première étape peut-être?
Alors, bah, dans ces cas-là, s'il est capable, c'est entreprendre, monter un truc. Et s'il se sent pas l'âme d'un entrepreneur, c'est d'investir dans l'immobilier. Parce que ça reste une forme d'entrepreneuriat simplifié. Voilà. Pour moi, l'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat un peu simplifié, dans le sens où le produit, on n'a pas à s'inquiéter de savoir s'il va se vendre. Mais sinon, tout le reste, c'est l'entrepreneuriat. Donc, c'est l'une de ces deux voies.
Ok. Si tu veux, on peut passer à la dernière partie, les questions rafales, sauf
OK.
si tu veux ajouter quelque chose d'autre.
Non, non, c'est bon, c'est bon.
L'idée, c'est d'être assez synthétique sur la réponse. Alors, j'y vais. Première question. En général, à quelle heure te lèves-tu le matin et quelle est ta première activité de la journée?
Entre 7 et 8 heures, et je bois un café.
Quel morceau de musique devrait-on envoyer dans l'espace si l'humanité devait disparaître?
Ah, il faut envoyer Fade to Black de Metallica.
Quelle série, film, documentaire ou chaîne YouTube recommanderais-tu de regarder?
Je recommanderais de regarder la chaîne de Casey Neistat, qui est un créateur américain, parce que ses vidéos, elles sont juste incroyables, je crois.
C'est quelle thématique?
Il parle de sa vie en général. Ouais. Il parle de sujets personnels et qui en fait sont universels.
Quelle application ou logiciel utilises-tu le plus?
Ce que j'utilise le plus, c'est un lanceur d'application que j'ai installé sur mon téléphone. C'est le truc que je vois tout le temps, tous les jours, 80 fois par jour, qui modifie mon téléphone pour que je n'ai plus, il n'y a plus d'icônes, c'est juste une liste ennuyeuse en noir et blanc pour éviter de cliquer partout sur mon téléphone 25 fois par jour. Donc c'est un lanceur d'application qui modifie l'apparence du téléphone.
Pratiques-tu un sport ou une activité physique?
Oui. Je fais du foot, je fais du jiu-jitsu et je fais du paddle.
Admettons que l'on te donne 100 euros, dans quoi les dépenserais-tu?
Bonne question. Dans quoi je les dépenserais? J'irai sûrement. Je paierai sûrement un repas à ma famille ou avec un ami.
As-tu un principe, une maxime ou une habitude que tu conseillerais à tout le monde de suivre ?
Oui, j'en ai plein, mais si je peux en donner une, c'est simplement de faire un petit peu tous les jours à sa mesure et de se dépasser soi-même un petit peu tous les jours.
Si tu étais président et que tu avais le pouvoir de faire aboutir n'importe quelle réforme, que changerais-tu en priorité ?
Voilà, on a combien de temps ? C'est pas une question rafale, ça. Je bloquerai le pourcentage de fonctionnaires dans le pays. Je le diviserai probablement par deux. J'interdirai que le pays s'endette sans l'accord des Français. Et ce serait déjà un changement énorme.
De quel accomplissement es-tu le plus fier ?
Ma famille.
Tu as le mot de la fin. Que voudrais-tu dire pour conclure cette interview ?
Eh bien, bougez-vous, faites des choses qui vous font plaisir. On vit qu'une fois, il ne faut quand même pas l'oublier. Et donc, voilà, laissez pas cette chance vous filer entre les doigts.
Merci pour votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Je remercie chaleureusement Michael Ferrari pour cette interview. Pour rappel, retrouvez les liens vers ses travaux dans la description. Pour finir, je vous invite à vous abonner pour être informé lorsque les prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.